Radio Silence, bonjour. Nous sommes le samedi 10 septembre. Le monde a un nouveau roi, disons l'Angleterre, le Royaume-Uni, mais le monde aussi un nouveau roi en la personne de Charles III. Oui, on ne va plus le redire, hein, la reine est morte, la reine Elisabeth. Si on était en Afrique, on l'appellerait la mama, parce que ça fait... On a connu qu'elle, hein, comme reine de cette envergure-là, depuis que nous sommes nés, depuis les années, le tournant de l'histoire de 1960 avec les indépendances des pays africains. Oh, c'était devenu une figure tellement familière que, bon, c'est vrai qu'on peut dire... qu'elle était ci, qu'elle n'était pas ça, qu'elle s'est enrichie sur le dos de l'esclavage, que. Oui, mais c'était l'époque, on ne peut pas lui en vouloir. Elle a hérité d'un empire britannique qui était l'un des plus grands empires du monde. Et donc, enfin, si ce n'était pas le plus grand empire à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? De toute façon, le Royaume-Uni a gagné, hein, je veux dire, c'était un empire très puissant. La France a succédé, bien sûr, mais ce que le Royaume-Uni a gagné d'exceptionnel, c'est quand même que l'anglais est devenu la langue du monde. C'est la langue du monde. Et ça, je ne sais pas si on peut le mettre au crédit du travail de cette reine, mais quand même, c'est formidable. C'est formidable de voir toute l'ampleur qu'a pris la langue anglaise. C'est phénoménal, probablement dû à cette reine, probablement dû à son héritage, l'Empire, le Canada, l'Australie, les colonies, Jamaïque et tout, et puis probablement aussi les dirigeants, parce qu'on a eu des grands dirigeants en Angleterre, comme Winston Churchill, comme Margaret Thatcher, qui ont fait l'histoire. On se rappelle de la guerre des Malouines, où Madame Thatcher, toute libérale qu'elle était, n'a jamais voulu laisser partir les colonies. Toujours cet empire britannique, cet esprit britannique, l'héritage indien du Pakistan, de l'Inde. Bon, c'est vrai que quand elle meurt, cette grande reine, peu importe, hein, qu'elle se soit enrichie de tout ce qu'on dit, ça ne pouvait pas être autrement. C'était son époque, c'était le temps et c'était les circonstances qui ont fait que le Royaume-Uni est riche de ce qu'il est. On ne va pas mettre ça au crédit de la reine. Elle a eu cet héritage. Qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse? Bon, elle a libéré quand même, il faut dire, hein, parce que les indépendances africaines, elles sont comme elles sont, mais il y a quand même une grande différence entre les... Bon, mis à part le cas du Zimbabwe, qui a été une fixation de l'Angleterre, mais toutes les autres indépendances africaines, où on parle l'anglais, se sont quand même révélées être des réussites par rapport aux indépendances francophones, françaises, surtout que les Anglais, quand ils venaient, ils construisaient le pays. Sur la base, d'abord ils construisaient de façon architecturale, mais aussi ils le construisaient démocratiquement avec des institutions qui fonctionnent, pas des choses qui font semblant de fonctionner. Et la France, que les Français n'ont pas fait, ils n'ont pas construit les pays où ils étaient, ils n'ont pas laissé un héritage architectural et infrastructurel probant, probablement sauf en Algérie, et ils n'ont pas laissé des institutions qui fonctionnent. C'est un simulacre d'institutions démocratiques qu'on a dans les institutions, dans les pays, les colonies, les ex-colonies françaises. Donc, ça aussi, bon, la reine était là, elle a suroctroyé cela. Après, on dira que oui, ben, l'Afrique du Sud, c'est quelque chose qu'elle donnait d'une main, elle reprenait de l'autre. Bon, il faut aussi avoir en tête qu'il y a la réelle politique. Et qu'un dirigeant, il ne faut pas non plus demander trop à un dirigeant, il fait ce qu'il peut. Mais le Commonwealth, c'est quand même quelque chose qui a marché du point de vue économique, parce que la francophonie, c'est bien beau, ça existe, mais la francophonie n'a pas une matérialité économique. La francophonie, c'est quelque chose qui est purement politique et parfois romantique. C'est ça, plutôt romantique, parce que vraiment, de politique, il n'y en a pas. La coopération devait s'intégrer dans la francophonie, ce qui n'est pas le cas. C'est quelque chose de complètement séparé, parce que c'est dans la coopération qu'il y a toutes ces tartufferies-là qu'on connaît. Et la francophonie, qui se veut tout simplement réservée à la diffusion de la langue française, n'a pas eu le même impact que le Commonwealth, parce que la diffusion de la langue romantisme comme roman simple, ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait marcher que si la France accompagnait cette diffusion de cet amour de la langue française, cette poésie, si on peut dire cela, avec la philosophie des Lumières, ce que la France n'a pas fait. Donc, quelque part, c'est, je vais pas dire bâtardisé, mais elle s'est retrouvée entre. Enfin, elle se retrouvait dans le gué parce que elle propage pas une idéologie et elle veut que sa langue soit une idéologie porteuse et elle veut que sa langue soit reconnue et parlée dans le monde, tout simplement parce que c'est le français. Mais non, le français, la langue française avait une magie. Elle avait une magie parce que elle était porteuse d'un universalisme, des valeurs, d'une forme d'auteur, d'esprit qui lui venait aussi de la religion catholique. Voyez, et donc à partir du moment où, contrairement au Commonwealth, au Royaume-Uni, on a séparé vraiment de façon radicale l'Église de l'État en France au nom de la laïcité, c'est vrai que la langue française est retombée parce que vraiment ce qu'elle avait de poétique et de magique s'est un peu barré. Si je peux dire ainsi, entre l'Église repoussée loin, 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 avec sa transcendance, et puis toutes les idéaux, je ne vais pas dire républicains, mais on a quand même en France une grande tradition royaliste qui a eu l'histoire qu'on connaît et qu'on a rejetée totalement au nom d'une république qui est arrivée, bien sûr, avec son roman. Des Lumières, mais seulement après, on voit très bien que ce roman, il est allé en s'effaçant, en se diluant, pour finalement devenir quelque chose, on appelait ça de globaliste, comme on a dit, de mondial, d'informe, alors que l'anglais a eu avec lui cette chance d'être l'anglais, la langue des affaires. C'est-à-dire que la globalisation se faisait soit elle se fait soit par l'économie et les finances, comme les affaires, comme l'a bien pressenti la reine, on va dire comme ça, on va lui attribuer cet héritage-là. Et la City, vous voyez, qui avait pris une telle ampleur qu'on se demandait si c'était elle, si c'était elle le toit du monde ou si c'était Wall Street. Wall Street est très majestueux, toutes les places en bourse ont quand même pâti à un moment donné de la grandeur et de la magnificence de la City à Londres. Bon, voilà, ce sont des Londres, il y a des repères d'affaires peut-être, mais quand même qui parlent par eux-mêmes, comme l'Italie a cette culture de l'art et de l'opéra qui parle aussi par elle-même. Bon, la France, entre-temps, elle n'a fait ni de projet culturel pour porter sa langue. Faut voir son cinéma, ce qu'il est devenu, il faut voir ses grands acteurs qu'elle avait, il faut voir cette chanson française qui n'existe plus, bien sûr, elle est remplacée par le rap, bon, pardon, il faut voir toute la magie de la poésie qui allait Comme ça, comme un brouillard en s'effaçant très très au loin, et en lieu et place, on a quoi? On a enlevé cette culture, on a enlevé l'idéal de Montesquieu, qui était quand même la tradition juriste et par l'oratoire, on va dire comme ça, de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on a des députés qui n'ont même plus ce quelque chose de je ne sais quoi qu'on disait, c'est-à-dire cette fibre oratoire où quelqu'un parle. Et ce qu'on a vu lorsque les révolutions commençaient, la prise de l'Assemblée. Donc, la France a beaucoup perdu comme ça, de son roman, de sa poésie, de sa magie. Et puis, bon, après, elle veut que la langue française soit je ne sais pas quoi. Elle couvre ici en Afrique tout un affairisme qu'on appelait la France-Afrique, vous savez, qui a encore vraiment effacé toute la grandeur de la France. Bon, ça, on va le mettre au crédit de la reine, parce que probablement que la France n'a pas eu de roi. Elle n'a plus eu de roi depuis Charles de Gaulle. Ça aussi, c'est vrai, on a critiqué de Gaulle, il faisait ci, il faisait cela. De toute façon, nul n'est parfait. Mais si la France avait conservé quand même, parce qu'elle a conservé cela dans ses institutions, où le chef d'État est vraiment roi. Et le roi, il prend pas la posture, il prend pas la posture. Et tous, ils arrivent. Après, je veux dire, le dernier, quand même, qui a un peu pris cette posture, c'était Mitterrand. Jacques Chirac aussi a essayé un peu, mais après, depuis ces grands présidents-là, la fonction présidentielle même n'a plus été ce qu'elle était, parce qu'elle n'a plus été incarnée et portée par ces personnages qui avaient la stature royale. Vous voyez, toute une. Un cran au-dessus, parce que le roi, c'est pas vous, c'est pas moi, le roi, c'est quelque chose d'autre. Vous voyez, c'est quelque chose d'autre. On a dit la divinité, non. Quand vous voyez tout le travail qui est fait sur la continuité de la transmission entre la reine et son fils, c'est mieux que la République, pardon. On voit que la République, il n'y a pas une transmission. Vous avez M. Macron qui est arrivé président, on ne sait pas d'où il sortait, ce monsieur-là. Ça, c'est pas possible. On a quand même, on avait. Comme ça, une tradition qui faisait qu'on savait plus ou moins qu'après Mitterrand, Chirac était là, après Pompidou, il y avait. Vous voyez, il y avait une transmission quand même. C'est quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui, où les gens arrivent au pouvoir, on ne sait pas d'où ils sortent, et puis le background même ne vous dit pas qu'ils sont en capacité de recevoir le pouvoir. On avait promis qu'on en parlerait, mais ça ne peut pas donner lieu. Ça peut pas avoir lieu parce que c'est très complexe comme ça. Le pouvoir, ce n'était pas quelque chose. C'est vrai, on dit la démocratie, mais derrière la démocratie, il y avait tout un travail préalable il faut éduquer les dirigeants. On ne s'improvise pas, dirigeants. On ne s'improvise pas aimant le peuple. Il y a un apprentissage qui n'est plus fait depuis aujourd'hui. On a des présidents bientôt, on aura des présidents de 30 ans. De 35 ans, ils ont appris la fonction quand? Ils l'ont apprise quand? Quand le roi Charles, j'adore ça, j'adore ce nom, le roi Charles, Charles III en plus, quand il arrive, on ne sent pas même de secousse, on ne sent rien parce que la reine a tellement préparé son fils. À un moment, il n'était pas prêt. On disait qu'il est déjà âgé, il faut qu'elle le. Non, non, la reine, elle voyait très bien, il n'était pas prêt. Et puis, depuis qu'il a réépousé, enfin, qu'il a épousé celle qu'il a toujours aimée, après aussi avoir grandi, on a vu le roi se arriver, quoi, sortir du prince Charles. Et le fait qu'il a toujours été accompagné de sa mère, toujours, 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 il est arrivé aujourd'hui au point où sa maman s'en va. Tout se passe en douceur, de façon formidable. Le peuple n'a pas peur, parce que le dirigeant est prêt. Et en plus, on le sent à sa posture, on le sent à sa parole. Tout le monde est rassuré. Ici, on dit souvent République, continuité. Il n'y a pas de continuité à la République, comme celle qu'on voit dans les royautés. Et encore, ce n'est pas un favoritisme, c'est du travail. Vous n'arrivez pas comme ça, même si vous êtes l'élu de Dieu, vous travaillez. Vous travaillez, vous êtes prêt à recevoir, vous devez être prêt à recevoir cette charge, à recevoir l'onction. Vous n'arrivez pas comme ça. Et on voit déjà aujourd'hui, à son couronnement, Il y a son épouse qui est là, la reine consort, et puis il y a surtout son fils, William, qui est déjà là, parce que lui aussi, depuis aujourd'hui, c'est le futur roi. Donc il va apprendre, il ne va pas décoller d'une semelle pour pas que demain, si son papa, il lui arrivait quoi que ce soit, on se retrouve en train de chercher qui va être là, qui va pas. Non, comme aujourd'hui, tous ceux qui sont dans la République sont en train de se chercher un roi, ils sont en train de se chercher un président. Qui va avoir des valeurs élevées, un président qui va aimer son peuple, un président qui va avoir la stature de président, c'est-à-dire quelqu'un qui ne triche pas, qui ne fait pas ce que M. Biden fait, qui envoie le FBI fouiller M. Trump, alors que lui-même, à travers son fils, bon, tous les deux, ils sont compromis jusqu'au cou, il y a un film qui est sorti. Bon, c'est des choses où on n'a pas l'impression que le roi est au-dessus des lois, il a rappelé qu'il mettait son, il plaçait son héritage sous l'autorité, j'ai envie de dire, entre guillemets, du gouvernement. Vous voyez, un roi qui dit ça veut dire qu'il n'est pas au-dessus des lois. Ça veut dire qu'il va avoir dans sa pratique de je sais pas comment on appelle ça, de son règne, quelque chose d'un peu plus sain quand même, vous voyez, quelque chose, on va pas parler d'humilité, ça sert à rien, un roi ne prenait pas la peau d'être humble. C'est extraordinaire parce que vraiment, on avait eu ce débat entre Fukushima qui disait que l'histoire était finie et l'autre qui disait que c'était pas fini, Huntington, bon, je sais plus, c'est l'inverse, c'est vrai. C'est vrai que les deux avaient raison. L'histoire, quand on pense qu'elle est finie, ben elle n'est pas finie, elle recommence. C'est un éternel recommencement. Ce recommencement, aujourd'hui, ce n'est pas un recommencement, c'est une continuité, mais ça va quand même recommencer parce que moi, je vois dans cette mort de la reine, je vois comme une époque qui se termine. Et qu'on va vraiment entrer dans une nouvelle époque, non pas parce que celle d'avant était mauvaise, mais c'est qu'il y a eu des dérives ces derniers, on va dire, 30 ans, ces dernières 30 années, il y a eu des dérives terribles de tout ce qu'on a espéré, la démocratie, au point même où on se dit, mais peut-être qu'il faut revenir. Avec les rois, c'était un peu plus clair, parce qu'avec les démocraties, les républiques, c'est devenu une filouterie permanente, une arnaque permanente du peuple, ça peut pas aller. On peut pas dire aujourd'hui qui va se lever pour dire God save Joe Biden. Personne, mais le prince, il dit que il place son règne aussi. Il implore, je veux dire qu'avec l'aide de Dieu, hein, il va y arriver. L'aide, vous voyez, on place Dieu au centre de l'action. Dieu, c'est vrai, on peut discuter. Il y en a qui vous disent Dieu n'existe pas, c'est quelque chose qui a été créé par les hommes. On peut gloser, mais quand même, Dieu, c'est un guide. Dieu, c'est une assistance. Dieu, c'est pas quelque chose de matérialisable, mais en même temps, Dieu, sans Dieu, il n'y a pas de morale. Sans morale, il n'y a pas de valeur. Vous voyez? Et il n'y a pas la notion d'un leader comme Moïse qui vous amène à la terre promise. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est des symboles. Après, on peut dire Dieu n'existe pas. Oui, alors enlevez la figure de Dieu, mais vous aurez tout le reste. Et quand un prince dit qu'il attend que le Dieu le guide, un prince, un roi, c'est superbe. Bon, aux États-Unis, on le dit aussi, Help me God, quand on prête serment, mais après, c'est pas ça, c'est le Covid. Dont on dit, il y a tout un retournement des situations qui fait que on va maintenant sanctionner, même retirer les licences à tous ces médecins qui vont produire de la désinformation, de la contre-information. Donc c'est pas mal et c'est une évolution par rapport à ce qu'on a eu. Où les médecins étaient vraiment les champions de la désinformation sur les vaccins. Ils ne disaient pas ce qu'ils disaient. Et quand on voit aujourd'hui des études qui montrent qu'il y a des gens qui, après le vaccin, ont un sang qui ne correspond plus tout à fait à la norme. Vous voyez, il y a comme un corps étranger qui est instauré dans le système sanguin et qui crée des choses inconnue pour le moment par la science. Publication en ce sens, et donc tout médecin, le gouverneur californien, l'éclaire là-dessus. On va sanctionner tous ceux, les médecins de la désinformation ou qui vont cacher la vérité sur les vaccins, sur le Covid. Bon, vraiment une page se tourne. J'espère, je souhaite, je pense qu'à ça. Mais avant même que la reine ne meure, j'avais pensé que je pouvais parler vite fait de ce qui se passait quand même, parce qu'en Angleterre, figure-toi, dans le Royaume-Uni, il y a des choses, des coïncidences. C'est que la première ministre, Liz Truss, j'ai envie de dire, une reine s'en va, une autre arrive. Elle arrive, elle met en place un gouvernement à la britannique, c'est-à-dire un gouvernement d'efficacité, et dans lequel, c'est pas la diversité française. Hein. Alors là, pour le coup, le Royaume-Uni, c'est toujours ça, ils ont l'air d'être en retard, mais quand ils arrivent, ils mettent l'accélérateur. C'est pas non plus la secrétaire d'État, bon, pas d'État, secrétaire de la presse américaine qui était là par intérim en formation. Finalement, on lui a laissé le poste parce que Joe Biden, voilà, il faut que ça fasse bien. Il y a une petite noire qui est là, elle est très jeune, bon, elle maîtrise comme elle peut maîtriser. C'est pas ça, c'est vraiment quelque chose de sérieux. C'est pas les figurants, hein. C'est quelque chose de sérieux que Liz Truss met en place. Et quand on voit son histoire, on voit quand même que c'est quelque chose qui est un mélange d'activisme et d'innovation et de nouvelles façons de faire la politique qui va dans le sens où, d'ailleurs, le Brexit l'annonçait, hein, elle était pour le Brexit, ça annonçait les couleurs, parce que le Brexit, c'est quoi? C'est vraiment la quintessence de la déliquescence de notre système politique aujourd'hui. C'est ça l'Europe. C'est ça l'Europe dans le Brexit. Et contre cela, c'est pas du laxisme, c'est pas, on ne sait même pas ce que c'est quoi. C'est un fourre-tout foireux, mais dont on voit que ce qui ressort, ce n'est pas les affaires, mais c'est un affairisme violent, sauvage, des prédateurs, quoi. Alors, le Brexit arrive, et Liz Truss, c'est vraiment les gens du Brexit, elle met en place un gouvernement où il y a une vraie diversité. Parce qu'on a au poste clé quand même le ministère des Affaires étrangères et pour la première fois hein, l'échiquier britannique, non, non, mais c'est énorme. C'est tenu, il y a un Ghanéen d'origine et quelqu'un de l'Inde ou de Pakistan, je ne sais plus, d'origine. Les anciennes colonies. Vous savez, donc maintenant quand on parle, faut donc faire attention quand on dit que c'est elle a pillé les anciennes colonies, mais voilà, les représentants des anciennes colonies sont là. À des postes vraiment élevés du royaume, ils vont trouver les équilibres. Mais ce qui est très très bien, c'est que ce n'est pas des jeunes de 30 ans. C'est des gars avec qui elle a bossé, donc elle connaît très bien leur efficacité. On revient au gouvernement d'efficacité. Le Royaume-Uni, j'aime bien les Anglais, c'est des pragmatiques. C'est des pragmatiques et c'est des gens qui recherchent l'efficacité. Donc ils sont là, un gouvernement qui va travailler. Elle a donné les signes, donc on ne regarde pas. C'est la même chose qu'on essayait de dire tout à l'heure. C'est la transposition de cette royauté, c'est-à-dire que les gens sont préparés pour prendre la succession. On n'arrive pas comme ça, en jouant les dilettantes. Non, et on a la même chose du côté du gouvernement, où les gars sont préparés. Ce n'est pas des enfants, c'est des gens qui ont roulé leur bosse, ils connaissent leur dossier. C'est un gouvernement d'experts que Liz Truss a mis en place. Alors, quand on dit espère, c'est pas que vous venez forcément, je sais pas quoi, parce que c'est vrai qu'en France, la notion d'expertise n'existe pas. Elle est mal maîtrisée, même ici au Cameroun, alors c'est la catastrophe, on ne comprend pas ce que c'est que l'espère. Mais l'espère, c'est pas forcément le gars qui vient du privé. Non, c'est pas même le fonctionnaire. Non. L'espère, c'est quelqu'un qui maîtrise tellement sa matière, son domaine et son sujet. Qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas lui faire à l'envers, comme on dit en français. Vous voyez? Donc, c'est des gars qui sont à la pointe de l'action. On ne peut pas trouver mieux. On ne peut pas trouver mieux. Donc, voilà. Qui dit mieux? C'est le mérite. Je veux dire, vous avez. C'est vrai, on peut réussir sans aller à l'école, on peut réussir comme on veut par les voies parallèles, en trichant, en fraudant, tout ce qu'on veut, ou même pas comme ça. Mais vraiment, si. On avait dit, si on avait pensé que l'école devait être égalitaire, c'est probablement parce qu'il y avait là une certaine mesure par laquelle on peut juger les gens, Vous embauchez quelqu'un qui a un bac, vous embauchez quelqu'un qui n'est pas là à l'école, forcément, forcément, il y aura une différence dans la maîtrise du sujet, je veux dire, bien sûr, après, on se forme personnellement, bien sûr, les autodidactes. Autant, Monsieur Bergoglio était autant, Premier ministre de France, était autodidacte, mais un autodidacte, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a lu les livres et tout. Il y a l'école. L'école, c'est une chose, mais maintenant, après, il y a ce qu'on fait après l'école. Il y a ce qu'on a fait après l'école. En France, parfois, c'est l'école. Ben, c'est même trop l'école. Hein. Vous êtes sorti l'ENA, vous êtes sorti de je ne sais pas où, là, ça va. Vous êtes déjà le grand expert du monde. Mais vous êtes expert de rien. Ce n'est pas parce que vous sortez magistrat. De l'ENA, vous allez juger quoi? Vous connaissez quoi de la vie? Vous avez la loi, d'accord, vous lisez la loi, mais ça marche pas comme ça, ça marche pas comme ça. L'espère, c'est autre chose. Et vraiment, que dire, là, on va respecter par la minute du silence, mais le temps du silence, à la fois pour que l'âme de la reine passe et pour que le prince Charles III, le roi Charles III s'installe, de toute façon, lui, il était déjà prêt, hein, donc. C'est juste qu'il prend une nouvelle dimension à partir d'aujourd'hui. Et je ne veux pas ajouter autre chose parce qu'avec une nouvelle comme celle-ci, on essaye quand même de respecter le temps du deuil. Et on s'est dit, amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le Monde d'Élise Mbock. J'ai même oublié de présenter dès le départ. Je vous dis à bientôt. Et bon, j'allais dire bon vent à la reine. J'ai vu une caricature de quelqu'un qui a présenté Diana en train de l'attendre au ciel, habillée, vous savez, un peu avec une épée pour. Bon, enfin, ça, c'est la séquence humoristique. Hein. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on voulait? Une belle-mère, elle ne peut pas apprécier que sa belle-fille ait une liaison. Vous voyez, même si c'est une ex, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, et surtout pas une princesse. Voilà. Là aussi, peut-être que notre Lady Di n'était pas très prête. Assumer la fonction, vous voyez, quand on disait tout à l'heure, faut être prête, faut être préparée. Elle n'était pas prête et ça fait des vagues et des remous, mais voilà, God save the King, Charles III.